mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens.
Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Près du cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne pour une présentation des cercles restauratifs, un outil destiné à tout collectif qui souhaite aborder les conflits sous l'angle de la restauration du lien. Bonjour Jeanne. Donc, vous venez nous parler des cercles restauratifs. Alors, j'avais une première question. Est-ce que ces cercles s'inspirent des principes de la communication non violente ou est-ce que c'est une autre démarche?
Alors, moi, je dirais que, en premier, ce sont deux pratiques qui œuvrent dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qui œuvrent pour une culture où les besoins de chaque personne sont considérés à égalité et qui s'y prennent par des moyens un peu différents. Les cercles restauratifs sont plus une approche qui part du collectif, en fait, que la communication aux ordres, même si la communication aux violentes a aussi l'intention de faire bouger les structures collectives.
Et ces cercles restauratifs, ils ont été créés quand et...
Alors, les premières expériences ont commencé dans les années 90, et elles sont le fruit de la rencontre d'habitantes et d'habitants d'une favela de Rio, au Brésil, et de Dominique Barber. Ensemble, ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire par rapport aux conflits qui se vivaient dans ces lieux qui étaient souvent très violents, hein, des conflits se réglaient souvent aux armes. Et ils ont commencé à créer des espaces de dialogue et de fil en aiguille, en fait, à se rendre compte que c'était pas suffisant d'impliquer les différentes parties du conflit, mais qu'il fallait aussi impliquer toute la communauté pour que les décisions qui soient prises dans ces espaces de dialogue puissent ensuite être soutenues en fait par l'ensemble de la communauté.
D'accord, donc une sorte de cohérence, que ce soit un système global en fait.
Oui, voilà, et en fait ils se sont tout simplement rendus compte que quand des camps ennemis arrivaient à dialoguer et en fait à établir des accords ensemble, en fait, quand chacun retournait dans sa famille, chez lui, les membres de la famille étaient souvent indignés que de telles décisions soient prises avec des ennemis, en fait.
Oui, oui.
Ils ne soutenaient pas et ce n'était pas possible pour les personnes de mettre ces décisions en pratique. En fait, c'est difficile de faire cohabiter deux systèmes de justice, deux réponses aux conflits qui soient dans un état d'esprit différent. Donc c'est pour ça que dans la démarche des cercles restauratifs, on cherche vraiment en fait à inclure déjà un maximum de personnes du collectif, mais surtout à bien veiller que les personnes qui ont du pouvoir en fait dans le collectif soient d'accord pour qu'il y ait une réponse restaurative au conflit et qu'on puisse pas ensuite revenir sur ce choix-là.
D'accord, oui, oui. Et est-ce que vous avez des exemples d'actions, alors, soit de manière de prévenir le conflit, soit d'exemples d'actions après un passage à l'acte?
Alors, les cercles restauratifs, ça n'est pas une démarche pour éviter le conflit. C'est en fait une démarche pour choisir la manière dont on y répond. Donc, c'est un peu comme dans une école, on n'attend pas d'avoir faim pour construire la cantine, donc on l'intègre dans les plans. C'est l'image qu'utilise souvent Dominique Barber. Et de la même manière, en fait, on peut dire que quand il y a des êtres humains ensemble, il y a forcément des conflits qui surgissent à un moment ou à un autre. Donc, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on a envie d'y répondre et sur la base de quelles valeurs. Pour aller vers un système restauratif, c'est nécessaire de se poser ensemble des questions très simples qui font juste appel à notre expérience, en fait, qui sont de se rendre compte de qu'est-ce qui, dans la manière dont on répond au conflit, marche bien dans notre collectif. Ça peut être dans notre famille, notre organisation de travail, dans notre association, dans des prisons aussi, ça a été fait. Qu'est-ce qui marche bien dans notre manière de répondre au conflit? Qu'est-ce qui ne marche pas bien? dans notre idéal, comment ce serait en fait? Comment est-ce qu'on aimerait répondre au conflit si c'était complètement aligné avec nos valeurs? En fait, partout où qu'on soit dans le monde, il y a toujours une intention de restauration des liens et du collectif qui émerge en fait de la réponse à ces questions-là. Mm-hmm. Donc c'est là-dessus qu'on s'appuie pour construire en fait ce qu'on appelle le système restauratif. C'est juste un fonctionnement collectif qu'on met en œuvre quand il y a un conflit qui survient.
D'accord.
Pour vous donner un exemple concret, pour qu'un système restauratif fonctionne, c'est nécessaire d'avoir défini comment on fait concrètement quand il y a un conflit. Sur quel bouton est-ce que je peux appuyer pour dire « en fait, là, il y a un conflit, je cherche de l'aide ». Et ça peut être, par exemple, mettre un petit mot dans une petite boîte, envoyer un email à telle personne, et on sait que cette personne fera le relais de la demande pour que le processus de réponse au conflit soit enclenché. Et c'est à chaque collectif, en fait, de construire en fonction de ses valeurs, de sa culture, son propre système restauratif. Il n'y a pas de modèle prédéfini. Mmh.
Et vous-même, est-ce que vous avez vécu dans un collectif qui applique cette méthode?
Alors oui, je peux vous parler d'une expérience dans un collectif. Moi, ce que j'ai vécu dans ce temps-là, c'est en fait déjà juste de pouvoir dire comment j'avais vécu les choses, ce qui s'était passé pour moi, et aussi de pouvoir entendre la même chose chez les autres personnes, la manière dont elles ont été touchées en fait par ce qui s'est passé. Mmh. De recevoir comme un feedback, en fait, de comment ce que j'ai fait n'a pas pu prendre en compte certains besoins qui étaient là. Et du coup, ça m'a donné une inspiration très concrète pour faire évoluer ma manière de faire pour d'autres situations. Et collectivement, ça nous a, en fait, renforcé dans nos liens, dans notre confiance que, voilà, on a envie de coopérer, de faire du mieux qu'on peut et aussi d'apprendre de nos expériences.
Oui. Il n'y a pas de doute sur la bonne volonté des personnes. Et ce qu'il faut affiner, c'est la compréhension de l'autre. Donc finalement, c'est un travail sur l'altérité.
Alors, moi, je dirais que quand j'arrive dans un cercle où il y a des personnes qui ont fait des choses qui ont été vraiment douloureuses pour moi, je n'ai pas forcément en tête que ces personnes sont pleines de bonne volonté, etc. Bon, je sais qu'on s'est rassemblés pour dialoguer, alors c'est déjà ça. Mais ce qui va me permettre de petit à petit être en lien, en fait, c'est juste d'entendre la réalité de l'autre, de comprendre pourquoi il ou elle a fait ce qu'elle ou elle, il ou elle a fait. Et aussi de comprendre que ce qui a amené à des actes qui ont pu être impactants pour moi, ou ce qui, moi, m'a amené à faire des choses qui ont été impactantes pour d'autres, en fait, ce sont aussi tout un ensemble de conditions que l'on crée collectivement. Le conflit révèle souvent que le collectif n'avait pas les ressources pour répondre à un besoin. Et donc, c'est aussi ce besoin qui émerge au travers du conflit et que lorsqu'on regarde, on peut voir quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place en dehors de la relation des personnes qui ont été en conflit, mais au sein du collectif pour mieux y répondre.
En imaginant qu'on puisse un petit peu généraliser ce fonctionnement dans une population d'un pays, quelle serait l'unité pertinente pour un cercle?
Alors, moi, j'ai envie de dire que pour moi, toutes les échelles font sens, en fait, à partir du moment où on reconnaît que l'on est un collectif et donc que nous partageons ensemble des enjeux, des problématiques communes. En fait, nous avons toujours un mode de réponse, en fait, au conflit. Il y a toujours un système de justice. Et donc, on peut toujours le remettre en question et en choisir un autre à partir du moment où on implique les personnes qui ont du pouvoir, en fait, dans le collectif. Donc, à toutes les échelles, en fait, c'est possible que ce soit à l'échelle d'un immeuble, d'une famille, d'un groupe d'amis, d'une association, d'une commune, d'un département, d'une région, d'un pays.
D'accord. Actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de cercles restauratifs en France et dans quel cadre est-ce qu'ils ont été créés?
Alors, à ma connaissance, en France actuellement, c'est surtout pratiqué dans le milieu associatif, dans des écoles alternatives, dans des familles, et voilà les milieux dans lesquels ça s'est mis en place pour l'instant.
Quelle que soit la communauté qui souhaiterait faire appel à cette méthode, quelle est la marche à suivre en fait?
En fait, comme je vous disais, le premier point, c'est de s'assurer que les personnes qui ont du pouvoir, en fait, dans le collectif, sont partantes pour entamer cette démarche. Et donc, quand je parle de personnes qui ont du pouvoir, je parle aussi de personnes qui ont du pouvoir informel. Et ensuite, il s'agit de se poser les questions de, ensemble, de qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre réponse au conflit. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas si bien? Et puis, comment est-ce qu'on rêverait, en fait, de répondre au conflit dans notre collectif si c'était complètement aligné avec nos valeurs? Et donc, en fait, c'est juste en s'appuyant sur nos expériences et notre sagesse qu'on peut faire émerger une réponse qui soit de l'ordre de la restauration. Et puis, ensuite, voir concrètement comment ça peut se manifester en fonction de la culture, de la créativité du collectif. Et puis, s'inspirer d'autres expériences, rechercher des ressources pour se mettre en lien avec d'autres. Il y a un wiki sur Internet, donc l'adresse c'est www.cerclerestauratif.org, donc cercle avec un S, restauratif avec un S.
Okay. Merci pour cette ressource. Effectivement, la démarche doit être en quelque sorte inventée par chaque groupe. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir ce que d'autres ont fait. Ça peut donner des idées, des pistes.
Bien sûr, et depuis toutes ces années où les cercles restauratifs sont expérimentés, il y a tout un tas d'expériences et de conditions en fait, qui ont été au fur et à mesure évaluées comme nécessaires pour se mettre en place un système restauratif durable. Donc, on peut apprendre de ça.
Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil ou une piste particulière à donner ou...
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les cercles restauratifs, en fait, c'est une démarche à long terme de changer la manière dont on répond au conflit et de co-construire une réponse qui nous satisfasse vraiment. Et donc, c'est beaucoup plus simple quand on s'y prend avant l'incendie, quand il n'y a pas de conflit, qu'il soit à chaud, et qu'on se pose ces questions-là, du coup, en vue de conflits qui surviendraient, parce qu'on sait qu'en fait, ça fait juste partie de la vie. Donc, ça peut être ça, ma recommandation, c'est de ne pas attendre, en fait, que des conflits brûlants surviennent pour se poser ces questions-là, qui sont un chantier qui demande du temps, de manière à avoir déjà quelque chose pour accueillir les conflits, en fait, quand ils arrivent.
Mmh. Ok. Ouais. Après, ce qui est certainement difficile à anticiper, j'ai envie de dire, c'est l'état dans lequel ça va nous mettre. Avant que ça survienne, souvent, on n'a pas l'idée de l'effet que ça va nous faire. J'imagine que ça se réajuste une fois qu'il y a eu un conflit avéré, non?
Alors, par exemple, dans un collectif qui n'avait pas encore eu l'expérience de conflit, effectivement, on ne sait pas, on se connaît peut-être pas très bien. Mmh. En même temps, on a tous et toutes des expériences, en fait, de conflit. En général, dans d'autres espaces collectifs. Donc, c'est aussi à partir de ces expériences-là, en fait, qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on sait qui marche et ce qu'on sait qui ne marche pas. Mm-hmm. Et puis, rêver ensemble comment est-ce qu'on a envie de faire dans ce collectif-là.
Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter, du coup?
Oui, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que ce changement de culture, donc de mettre en place une culture qui soit dans la restauration du lien et du collectif, en fait, c'est un changement de culture. Donc, ça demande du temps, de l'entraînement, et ça vient avec l'expérience, en fait. Voilà. Mmh. Et l'autre chose aussi qui est là pour moi, c'est que à partir du moment où on fait le choix, lorsqu'il y a un conflit, d'y répondre d'une manière restaurative, avec un espace de dialogue où chaque personne a la possibilité d'être entendue. En fait, on offre la possibilité à toute personne du collectif de changer les règles du jeu du collectif, puisqu'on offre, on construit un espace pour qu'il y ait suffisamment de sécurité pour que les personnes qui ne se retrouvent pas dans les règles du jeu du collectif puissent l'exprimer et être entendues par celles qui les ont mis en place. Donc, c'est aussi une manière de changer notre rapport au pouvoir.
D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'envoyer un message. Ou... Mmh. Est-ce que d'après votre expérience ou les ressources auxquelles vous avez eu accès, est-ce que la démarche est facilitée par le fait qu'il existe une personne référente qui ait un peu la responsabilité de lancer le processus ou la procédure peut-être une sorte de sage dans la communauté.
Alors, initier le processus qui a été choisi pour répondre au conflit, ça, c'est important que ce soit accessible en fait à toute personne du collectif. Chaque personne peut recevoir le soutien dont elle a besoin pour être entendue dans ce qu'elle vit. Ensuite, pour faire ça, c'est nécessaire qu'il y ait des ressources dans le collectif. Quand on se pose des questions de ce qui marche bien pour répondre au conflit, il en ressort qu'il y a besoin en fait, qu'il y ait des personnes qui puissent écouter et qui puissent être en soutien en fait, au dialogue. Et donc, ce rôle-là de facilitation, on peut s'y entraîner, on peut apprendre en fait, pour ensuite pouvoir offrir cette ressource-là au collectif quand il y en a besoin.
Et ça, c'est pareil, c'est chaque personne qui est amenée à apprendre ça au fur et à mesure. Ou est-ce que c'est quelques personnes?
Alors, c'est nécessaire qu'il y ait suffisamment de personnes dans le collectif qui puissent faire ça. Ensuite, c'est pas nécessaire que tout le monde ait le même niveau d'expérience, en fait, là-dedans. À partir du moment où les personnes qui ont plus de ressources sont quelque part dans le collectif, c'est suffisant.
D'accord, ok. Mmh. Est-ce qu'il arrive parfois que certaines personnes du collectif ne souhaitent pas s'insérer dans le processus? Est-ce qu'elles sont du coup spectatrices? Enfin, comment ça se passe?
Alors oui, ça arrive. Dans ce cas-là, la question à se poser, c'est à quelles conditions est-ce que ce serait possible pour elles? Donc en fait, on peut le prendre comme un feedback et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour faire en sorte que ce système offre vraiment la sécurité dont il y a besoin pour se rencontrer quand il y a un conflit. On ne peut pas avoir de pouvoir sur ce qui se passe dans le monde intérieur d'une personne. Ouais. Par contre, on peut prendre notre pouvoir en main collectivement sur les conditions que l'on crée ensemble.
Mmh. Et ce qui est un petit peu difficile aussi, c'est où placer le curseur pour définir que telle ou telle situation est un conflit. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors ça, c'est à chaque collectif d'évaluer ce qui est juste pour lui. Dans mon expérience, c'est pas forcément nécessaire de mettre un curseur collectif, mais c'est plus d'offrir la possibilité à partir du moment où quelqu'un ne se voit pas suffisamment de ressources pour répondre à une situation d'une manière qui lui convienne vraiment et qui cherche du soutien, en fait. Dans ce cas-là, c'est super si elle peut faire appel à du collectif.
Oui, d'accord. Le curseur, c'est le ressenti, comment la personne se sent dans le collectif, en fait. Très bien.
Oui.
Ouais.
Dans ma vision des choses.
Ok, très bien. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très inspirant.
Merci à vous, Nathalie, de m'avoir donné la possibilité de partager un peu de ces expériences qui sont le fruit du travail de ses habitants, des favelas au Brésil, de Dominique Barthard et puis de plein d'autres collègues un peu partout dans le monde.
Ok, on les remercie aussi de mener ces démarches. C'est une belle aventure humaine.
Un grand merci à Jeanne pour la présentation de cet outil à utiliser sans modération. Je vous rappelle l'adresse du wiki www.cerclerestauratif.org. Cercle et restauratif avec un S et tout attaché. À présent, place aux dédicaces avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Nathalie.
Alors Stéphanie, pour cette émission de juin diffusée entre la fête des mères et la fête des pères, honneur aux papas et aux mamans avec des hommages tous azimuts. On commence par un chanteur bien connu.
Oui, américain d'origine, son père était cinéaste et sa mère violoniste. Il a exercé une multitude de métiers avant de devenir chanteur à succès. Dans les années 60-70, il enchaîne les tubes « L'Amérique »,« L'été indien »,« Siffler sur la colline » ou encore « Les Champs-Élysées ». Ainsi que quelques titres plus discrets, dont celui que nous allons écouter.
Voici donc Joe Dassin, vous l'aurez reconnu, avec une chanson dédiée à sa maman, la violoniste virtuose Béatrice Lonner. On écoute « La première femme de ma vie ».
La première femme de ma vie, je ne l'ai pas vue tout de suite. Je n'ai vu qu'elle était petite, qu'après avoir un peu grandi, elle m'emmenait dans les musées, quelquefois au concert colonne, où son gentil petit bonhomme faisait semblant de s'amuser. Elle chantait ma mère, Elle chantait souvent des chansons d'hier, des chansons d'avant. La première femme de ma vie un jour m'a conduite à l'école, en mitouflé dans un cache-colle armé d'un cartable verni. J'ai connu les bons, les méchants, les points sur les i, sur la gale. Il était quelquefois bien seul, le deuxième homme de maman. Elle chantait ma mère, elle chantait souvent des chansons d'hier, des chansons d'avant. La première femme de ma vie, je l'ai quittée pour être un homme. C'est toujours un matin d'automne que les enfants s'en vont du nid. C'est toujours un matin de pluie. C'est souvent pour une autre femme. Elle chantait ma mère, elle chantait souvent des chansons d'hier, des chansons d'avant.
Assister au mariage de ses parents est inhabituel. Même si cette évocation n'est pas autobiographique, Georges Brassens y met toute la tendresse qu'il avait pour ses parents. On écoute la marche nuptiale, ici interprétée par François Morel.
Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens. Des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant monsieur le maire. C'est dans un char à bœufs, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles. Après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles, cortège nuptial, hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Voici le vent qui souffle, emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voici la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues, tous les garçons d'honneur montrant le poing au nu, crié par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue.
être mère ? À cette question, autant de réponses que d'êtres humains sur cette terre, avec sans doute comme dénominateur commun l'amour. On écoute Natacha Saint-Pierre nous offrir sa réponse tout en douceur. On dédie ce « être mère » aux mères biologiques comme aux mères de cœur.
Être mère, simplement, c'est de préparer sa terre pour un enfant, lentement. C'est découvrir un mystère infiniment, doucement. C'est sentir qu'en soi la vie trouve un chemin, s'approcher du divin. Être mère, c'est donner, sans rien attendre en retour, et espérer pour ce jour on sera face à face, plein d'amour, sans détour. C'est faire naître dans son cœur une demeure, un regard, un secours. Donner la vie, pousser un cri, en son sein toucher l'infini. Donner l'amour, sans condition, sans retour. Infiniment, abondamment, comme une source, un océan. C'est un miracle qui s'écrit chaque jour. C'est naître à soi-même, c'est vivre l'amour. Malgré le pire, sans m'enfuir, c'est inventer un langage, une prière. Être mère, c'est sentir. C'est bien plus qu'une femme qui peut guérir vos blessures, sécher vos larmes, ressentir au cœur de vos meurtrissures et de vos drames. C'est un chant qui s'élève au cœur d'une âme, une étincelle, un volcan, une flamme. Donner la vie, pousser un cri, en sens à toucher l'infini. Donner l'amour, sans condition, sans retour. Infiniment, abondamment. Soi-même, c'est vivre l'amour. C'est vivre l'amour.
C'est à son père pianiste que Jane Constance s'adresse dans la chanson suivante, « À travers tes yeux ». Un hommage à celui qui, par son amour, lui a impulsé la force de se construire avec la non-voyance.
Même si le temps passe, jamais je n'oublie souvenir de ma vie gravé en moi. Mes nuits blanches, mes insomnies, les rêves que j'ai nourris au son de ta voix. Les barrières que j'ai dû franchir jeune, j'ai dû partir chercher ma chance. Avec ta force, j'ai pu construire seul mon avenir malgré le silence. Je vois à travers tes yeux, chaque jour bleuté contre toi, j'en ai tant voulu un ciel. même si le temps passe, jamais je n'oublie l'amour qui a nourri chacune de mes heures. Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas dit, pour tous ces mots qui réchauffent le cœur. Les barrières que j'ai dû franchir jeune, j'ai dû partir chercher ma chance. Avec ta force, j'ai pu construire seul mon avenir malgré le silence. Je vois à travers tes yeux chaque jour blotti contre toi. J'en ai ton volé au ciel, noir tout autour de moi. Je vois à travers tes yeux.
Un zoom arrière avec une chanson de 1991 dans laquelle Jacques Higelin partageait avec son public son émotion de jeune papa. Entre chamboulement cosmique et secret du bonheur, on écoute « Ce qui est dit doit être fait ».
Ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. 24-9-90, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. Je suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou pour le genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau? Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin à l'étrange aventurière du destin. Y'a tant de folie et trop de misère. Qui a été dit reste à faire, c'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers, sans prendre l'air, sans se donner le temps de le retourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée. Les jours comme la pluie, belle des roses de l'amour, comme le plus beau cadeau de la vie, amour de ma vie.
Lien du sang, lien du cœur, le lien ne va pas toujours de soi. Alexandre Poulain nous partage le regard d'un ado sur le nouveau compagnon de sa mère. Une immersion dans le quartier ouvrier de Hochelaga Maisonneuve, à l'est de Montréal. On écoute Hochelaga.
Pas mon père, tu te prends pour qui? Tu sais rien de moi pis de mes amis. Ma mère n'a ramené des bains plus tough. Moi les gars comme toi, je les mets dans ma poche. Pis tu vas bien faire comme toutes les autres. Tu vas claquer la porte en mettant ton coat. C'est moi du haut de mes 14 ans. Veille sur le bonheur de ma maman. T'es pas mon père, m'as-tu compris? Je les connais, les grands secrets de la vie. Garde tes histoires pis tes conseils. Chaque fois tes affaires, je vais faire pareil. Si jamais tu mets le pied dans ma chambre, je te jure que je te paye des vacances. Ma mère pense que t'es l'homme de sa vie. Moi je te donne pas 3 semaines, puis t'es parti. Jusqu'à midi, je me suis mis dans le trou, pis comme dit ici, ça a l'air qu'à l'école y aurait trouvé 10 grammes de shit dans mon casier. Faudrait pas le dire à ma mère, elle serait bien capable de trop s'en faire. Toi tu sais comme moi qu'on passe par là. On devient un homme dans Hochelaga. Serais-tu mon père jusqu'à cette nuit? Je me souviens même plus quand le mien est parti. Il n'y avait pas grand temps pour dire je t'aime. Entre la DPJ pis le HLM, pourrait peut-être regarder la TV quand maman rentre de son chiffre au PFK. Serait drôle un jour d'aller jouer au quai. Ça a l'air qu'ils font ça d'un vrai famille. Mon père pour toute la vie. Le temps passe pourtant, t'es pas parti. Moi je suis fatigué de jouer au tof. J'ai dans le ventre une carrière de roche. Puis comme c'est ma fête le mois prochain, m'amènerais-tu voir une game des Canadiens? Puis si personne n'entend et que c'est juste une fois, voudrais-tu que je t'appelle papa?
nous vous retrouvons pour une pause toute en poésie.
À toutes les mamans de France et du monde, je dédicace ce magnifique poème de Kamara Lai, écrit en 1953. Il s'intitule « À ma mère ». À ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Daman, oh, ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui, la première, m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme des grands fleuves, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô toi, Daman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui, la première, patiemment supportais mes caprices. Comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Femme simple, femme de la négation, ma pensée toujours se tourne vers toi. Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne, à chaque pas, m'accompagne. Ô Daman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils, si loin, si loin, si près de toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai toujours. Meilleurs vœux à toutes les mamans.
Merci et pour cet instant.
C'est la fin de nos dédicaces. On se retrouve avec plaisir le mois prochain, Stéphanie.
À bientôt, Nathalie.
À bientôt. Une famille, ce sont aussi un ou des lieux de vie. Quelle que soit leur configuration et la durée de leur existence sur une ou plusieurs générations, ces lieux sont chargés de souvenirs. Parfois, ils disparaissent dans des circonstances qui nous échappent. Parfois, la question de leur devenir reste ouverte. Dans tous les cas, ils ne quittent jamais nos cœurs. On écoute Émilien Buffat accompagné de Noémie Romero dans « On entendra la vie ».
On n'entend plus la vie qui court, plus de ballons, ni de bonjour. Que le silence et la poussière dans une danse à la lumière. Que va-t-on faire de toi? T'en remettre au souvenir, te donner un avenir. Mais que va-t-on faire de toi? Te laisser autant. Jardin refleuri, mais que va-t-on faire de toi?
Tu nous cachais quand on pleurait, toi tu savais nous écouter. Quand on parlait de nos errances, tu étais dans.
Souviens-tu de ces beaux jours, de notre enfance, de nos amours? C'était le temps de la moisson.
et dans les chants des chansons. Mais que va-t-on faire de toi?
C'est la fin de ce Près du cœur sur Marmite FM. Merci à notre invitée Jeanne et bien sûr à Stéphanie et Claudia pour la préparation de cette émission. On se retrouve au mois de juillet. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent dimanche.